Oh, vous croyez où, là?
Mais au théâtre, mon jeune ami, au grand théâtre de la vie. La représentation commence, les comédiens sont prêts, et le public est là.
Le podcast de la Haute-Marne.
Et si j'essayais de vous présenter les choses dans l'ordre?
Vous allez entendre un récit de vie peu commun, étonnant. Formule 1, cinéma, vie politique, graphisme, Cyril de Rouvre, maire de Chaumont de 1990 à 1996, partage avec nous les moments marquants qui ont jalonné son histoire. Bon voyage.
Bonjour Cyril.
Bonjour Thierry.
Bonjour, merci de venir au podcast de la Haute-Marne. On aura peut-être un petit peu de bruit en fond parce qu'on enregistre au-dessus de la librairie à la Une. Merci de venir pour qu'on échange. Ben, c'est un peu un échange sur ta vie, mais ton lien avec la Haute-Marne, il est assez fort. En parlant ensemble, là, on a préparé l'émission et je me suis rendu compte du degré de lien, même si on te connaît surtout en tant que maire de Chaumont, et c'est pour ça qu'on en parle. Alors, dans les podcasts de la Haute-Marne, on fait pas vraiment de politique, mais on essaye de replacer, de raconter et de resituer ce qui s'est passé, et puis parfois, en regardant avec le recul, on s'aperçoit de plein de choses qu'on avait vues différemment peut-être quand ça s'est passé à l'époque. Mais voilà. Donc, bienvenue Cyril.
Merci de m'accueillir. En fait, c'est vrai qu'on a préparé, on a essayé de préparer un petit peu. On avait d'ailleurs dit qu'on se vous voyait.
Oui. Je t'ai tutoyé.
Oui.
C'est vrai qu'on échange entre mes parents. Alors, on peut se vouvoyer comme tu veux, moi, ou se tutoyer.
Moi, le tu est plus simple.
Le tu est plus simple.
Le tu est bon, plus simple.
Alors, tutoyons-nous. Ce qui est important de noter, c'est que c'est un peu un roman parce que déjà, tu arrives dans une famille qui a une histoire, déjà, et puis toi, tu vas raconter la tienne d'histoire. Ça va être un peu vertigineux dans les chiffres qu'on va évoquer à des moments pour avoir échangé, c'est dingue. Je te propose de commencer par la famille de Rouvre, Bourlon de Rouvre même. T'es pas venu ici par hasard. On peut noter que ça peut. Est-ce qu'on peut commencer? Bon, on peut commencer à la Révolution, par exemple, la Révolution française.
Oui, pour ce qu'on sait, pour ce dont on est sûr, c'est qu'effectivement, la propriété du Val des Écoliers, dans laquelle j'habite actuellement, a été acquise après la Révolution comme bien national, parce qu'au départ, c'était une abbaye du XIIIe siècle, qui s'appelait le Val des Écoliers, d'ailleurs, écolier, parce que c'était un endroit où les moines du monde entier venait étudier, en fait. Donc, le succès de cette école, si l'on peut dire, a fait que petit à petit, les moines se sont embourgeoisés, si on peut dire, ont eu accès à la cour, etc., etc. Et donc, ça commençait vraiment à tomber en décrépitude au moment de la Révolution. Le coup d'arrêt fut donné par la Révolution qui avait confisqué le bien. Et donc ça a été acheté par une de mes ancêtres, dont le nom de famille était Denis Denraymont. Denraymont étant qui est mort à la prise de Constantine en Algérie. Et puis donc c'est arrivé par les filles dans la famille Bourlon. Famille Bourlon qui avait beaucoup d'affinités avec Colombey les deux églises. La mairie de Colombey à l'époque était la maison familiale et le cimetière comporte plusieurs tombes de Bourlon. Et c'est devenu Bourlon de Rouvre, je ne sais pas très bien à quelle époque, parce que je n'ai pas cherché vraiment. Probablement parce qu'ils ont racheté les vignes à Rouvre qui étaient toujours dans la famille. Au moment de la mort de mon grand-père.
Ce qui est fou, c'est que l'abbaye à le Val des Écoliers, pour bien situer, à la Révolution, c'est vrai qu'il y a la confiscation des biens de l'Église et on revend bien national, enfin on revend les différents biens. Mais avant ça, tu dis 13e siècle, c'est une abbaye un peu dans l'école, pas de la même obédience entre guillemets, mais c'était comme les cisterciennes, quoi. C'est-à-dire que c'était une abbaye qui avait des filles entre guillemets.
Tout à fait. Tout à fait. Il y en avait dans le monde entier.
Dans le monde entier.
Et bien sûr, il y en avait plus en Europe, mais par exemple en Belgique, il y avait plusieurs filiales filles. Qui était très connu et ils s'aimaient vraiment partout à l'époque. Ce qu'il en est resté aujourd'hui avec le château qui a été donc refait par mon arrière-grand-père.
On va en parler alors. C'est-à-dire que il le rachète pendant une période, ils vivent dedans, mais en avançant dans le temps, ton arrière-grand-père, qui lui est déjà existe politiquement sur le territoire, puisqu'il est, il va être député.
Il est député de la Haute-Marne, oui, tout à fait.
C'est ça. Et il va être aussi préfet dans sa carrière.
Il a été préfet aussi dans sa carrière. Ouais. Et
il va se marier avec une personne
il se marie
justement
avec une,
très fortunée.
Une mademoiselle Lebaudy, qui est donc mon arrière-grand-mère, qui était une famille très fortunée, principalement dans la fabrication du sucre.
Du sucre
ils avaient
ouais.
des grandes sucreries. Lebaudy Sommier était très connu d'ailleurs à l'époque.
Ouais. Et en fait, c'est parce qu'il y a ce mariage-là qu'ils vont... transformer quelque part le lieu,
oui, avec
le rendre
avec la dot.
Avec la dot de la... Oui, tout à fait.
Avec la dot, c'est vrai que c'était des gens très riches, les Lebaudy, et effectivement, mon arrière-grand-père a donc fait tous les travaux dans les années 1870-1880 pour refaire un château d'agrément, entre guillemets, et tout le parc. Qui a été le château façon Viollet-le-Duc en rajoutant des tourelles qui était très à la mode à ce moment-là et tout le parc vraiment fait par un paysagiste et on se rend compte qu'il n'y a pas une ligne droite dans les différentes parties parce que pour faire obstacle à cette uniformité de laquelle vient l'ennui, toutes les lignes droites avaient été transformées en lignes courbes, avec même des inclusions, des avancées de bois à l'intérieur de la parcelle.
Ouais, on avait des soucis à l'époque quand même. Et d'accord. Et donc ensuite, leurs enfants vont être pas
leurs enfants,
mais vont entretenir le lieu.
Leurs
aussi.
Enfants, c'est mon grand-père,
c'est ton
en fait.
Ouais.
Et donc, mon grand-père qui a épousé ma grand-mère, qui était une truchue de lait, et qui, lui, adorait cet endroit, et avait même décidé d'y rester d'essayer d'y rester le plus possible et qui avait acheté la ferme de la Lucine qui était une grande ferme à côté de Châteauvillain. Il avait commencé à faire de l'agriculture aussi. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait des vaches, des moutons et donc il adorait cet endroit. Et c'est lui qui m'a donné le goût de cet endroit qui est un peu magique en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sentent les lieux et qui me disent à chaque fois qu'ils viennent il y a vraiment quelque chose.
Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est vrai que c'est aussi un... C'est pour ça que je parlais un peu de l'histoire aussi, de dire la charge, parce que c'est grand, c'est comme une ville finalement. On parle des moines à l'époque, mais après il y a les exploitations dont tu parles, tout ça. Enfin, c'est comme ces grands lieux, quoi. Il y a de la vie à travers le temps, de toute façon, qui se transmet, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, moi, ce que j'ai absolument voulu, c'est essayer de le garder et de le garder dans un état convenable. C'est là le drame. Parce
ben
que
oui.
c'est très très compliqué. Les coûts d'entretien de ce genre de choses sont dans le, dans le, dans la période actuelle, complètement aberrant. Et heureusement, il y a quelques terres, mais c'est pas ça qui suffit à faire vivre le système. Et puis là, donc, j'ai essayé de monter une activité de pension de chevaux. Tout en gardant, là aussi, c'est pas par hasard. Mon grand-père adorait les petits chevaux et les Connemara, il avait un élevage de Connemara, et moi j'ai toujours continué, et j'en ai encore. Oui, c'est pas tout à fait ça. Moi, en fait, j'ai jamais été élevé par mes parents.
Ah oui.
J'ai été confié, pour des raisons que j'ignore. J'ai beau chercher...
Trop turbulent.
J'ai beau chercher, je l'ai toujours pas compris. J'étais confié à ma naissance, hein, quasiment, je sais pas, j'avais 2-3 mois, à mes grands-parents, et donc j'ai été élevé par eux, donc avec avec encore une génération de décalage. C'est la raison pour laquelle, en fait, j'étais toujours toutes les vacances scolaires, j'étais fourré au Val, et j'adorais parce que. Surtout, une fois que mon grand-père est mort, j'avais 11 ans. Ça a été un drame pour moi, mais le seul endroit où je le retrouvais, c'était au Val.
Les souvenirs.
Et pour moi, ça a toujours été mon endroit et l'endroit que je voulais. Voilà.
Tes parents, par contre, ils y venaient peu, moins.
Mes parents, ma mère jamais, et mon père n'a pas été là pendant assez longtemps parce qu'il était au Brésil et au Mexique pendant quelques années. Et il en a ramené d'ailleurs sa nouvelle femme.
Ah oui.
Et non, je le voyais très très peu.
Tu disais que tu me racontais qu'il était mort de manière dramatique.
Oui, il s'est fait assassiner par son valet de chambre.
Incroyable.
Dans son appartement à Paris, qui est venu l'assassiner dans son lit.
Ah ouais, c'est quelque chose. Alors, tu m'avais dit d'ailleurs que c'était quelqu'un qui avait vécu l'Indochine
On essaye toujours de trouver des raisons. Bon, le fameux valet de chambre qui était là avec sa femme et sa fille d'ailleurs, d'après ce qu'on m'avait dit, avait vu la quasi-totalité de sa famille. Tué par les Viet Cong devant lui. Donc, forcément, ça peut laisser des traces.
Oui. Et le...
Et là, c'était en 79, donc j'avais 33 ans, 34 ans.
Voilà, parce que ce qui va t'arriver, même si ta vie est déjà hors norme, voilà, on parle du Val et tout ça, mais là, ça va en prendre un degré supérieur, puisqu'en 79, tu te retrouves héritier. Jeune héritier.
Jeune héritier, oui, avec mes deux sœurs, deux demi-sœurs, avec lequel tout de suite je me suis dit il faut absolument régler cette succession d'une manière intelligente. Et on a réussi à trouver, j'ai proposé, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai dit écoutez, pour tout le reste, c'est assez facile, hein. Il n'y a qu'à mettre le chiffre et puis diviser par 3. Par contre, pour le Val, si on veut que ça continue à exister, il n'y a qu'une seule solution, c'est que ça soit un de nous trois qui prenne. Personnellement, je suis prêt à le prendre et à m'engager à l'entretenir. Vous serez toujours les bienvenus quand vous voulez. Mais si quelqu'un en veut, je suis prêt à abandonner, mais à une condition, c'est que vous vous engagiez aussi à l'entretenir. Et donc mes deux sœurs ont dit non, garde-le. Et donc la succession s'est finalement très 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 bien passée grâce à ça. Donc c'est toujours grâce à la propriété que tout le reste s'est très bien passé aussi.
Ouais. Ce que je voulais évoquer, c'est que au fond, là, à ce moment-là, tu pourrais choisir de dire, bon, bah voilà, la vie, on va laisser rouler la vie tranquillement, parce que c'est une protection incroyable, quelque part, d'avoir tout ça d'un coup. Mais finalement, peut-être ton tempérament, ou en tout cas tes envies, ou tes possibilités, vont te dire de faire autre chose, quoi. D'entreprendre.
Oui, tout à fait. Non, je veux dire, je suis quelqu'un qui est incapable de ne rien faire. À l'époque de la mort de mon père, j'étais associé dans un garage British Leyland, c'est-à-dire les Austin Mini, Rover, Range Rover, etc., à Juvisy, à côté de Paris. Et d'ailleurs, j'avais fait les deux premiers Paris-Dakar qui s'appelaient à l'époque Abidjan-Nice. Ouais. Je suis même arrivé second une fois. Ouais. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, à l'intérieur des diverses sociétés, il y avait un reste de fabrique de sucre de Le Baudy. Il y avait mon grand-père adorait le cinéma et avait donc créé, a été le premier, à l'époque, le premier distributeur de films français qui s'appelait Sirius. Il restait aussi, qui n'était pas actif, des sociétés de financement de cinéma, etc. Et moi, je me suis dit, bon, bah, allez, on fonce, on monte tout ça et on se met à travailler, voilà.
Développe dans une période, notamment les années 80, où c'est propice
au développement. C'est toujours ce que j'ai dit, c'est que, aussi bizarre que ça puisse paraître, les années Mitterrand ont été économiquement les meilleures années de la France depuis longtemps, et avec une inflation qu'il ne faut pas oublier, à l'époque, était aux alentours de 13%. Donc c'était une manière de vivre très particulière, mais ces années-là ont vraiment été des années extraordinaires pour la France et pour ceux qui voulaient travailler.
Oui, voilà, et entreprendre, développer. Puis, ne serait-ce que tu parles de les droits de cinéma ou la technologie, de manière générale, c'est déjà un développement, le cinéma notamment.
Voilà, mais
la démocratisation du cinéma.
Voilà, et puis le besoin d'image était grand.
C'était encore plus l'image. Ouais.
C'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, ouais, d'en faire, parce que le digital n'existait pas.
Ben oui.
Et donc, je me suis dit, bon, tiens, il y a des anciens films à acheter, etc. Et j'ai donc créé Revue Droit Audiovisuel, en achetant tout un catalogue de films, vous avez La Grande Vadrouille, le machin.
C'est super intéressant, c'est que tu, en tant que société, toi, tu vas acheter les droits des films pour après les vendre aux télévisions, quoi. Mais en l'occurrence, c'est un catalogue important où il y a des films, on en a parlé, il y a l'histoire de la vache et le prisonnier, il y a tout ça.
Et le prisonnier, d'ailleurs, que j'ai fait coloriser. Ouais. J'ai été le premier en France à coloriser un film.
Ouais. Ouais, avec un procédé américain à nouveau.
Avec
c'est
un
ça
procédé américain, tout à fait.
Tu avais même une anecdote que tu m'avais racontée.
Oui, sur la vache. En colorisant, on s'est aperçu que ce n'était pas la même vache au début du film et à la fin du film.
Nous a menti.
Quand on s'est aperçu de ça, on a été voir. On a dit, mais écoutez, c'était la même vache au début et à la fin. Ah non, c'est vrai que... Mais on s'en foutait parce que ça ne se voyait pas, il n'y avait pas de couleur. Il était en noir et blanc.
Elle n'était pas violette comme la vache Minka, non, quand même.
Non, et puis il n'y avait pas les marmottes qui emballaient.
Donc oui, donc toi tu vas te retrouver à faire ça. Alors tu parles en effet de bon ça le Paris-Dakar ou la vidéo. Enfin tu vas te retrouver à embrasser plusieurs sujets. L'autre sujet qui quand est-ce que ça va venir qu'il y a tu sais il y a, c'est plus tard ça les histoires où tu te retrouves à racheter des boîtes de
ça va assez vite parce que bon donc j'étais dans j'ai jamais été dans mon petit train-train mais donc là ce que j'avais à gérer c'était bien déjà un jour par hasard je vais avec un ami à moi faire du ski au Canada, parce que c'était le seul endroit à l'époque où on pouvait faire du ski en hélicoptère.
On le sait bien, évidemment, c'était compliqué.
Et c'était extraordinaire d'ailleurs. Ouais. Et j'étais jamais monté en hélicoptère de ma vie. Donc, quand je suis revenu de là-bas, j'ai dit il faut absolument que je trouve une boîte qui fait dans les hélicos, parce que ça ne peut que marcher. C'est extraordinaire, tellement bien comme engin. Et donc l'agent de change que je connaissais, qui après ça est devenu mon beau-frère d'ailleurs, il avait épousé une de mes demi-sœurs, m'a trouvé la compagnie Fraissinet. Et il est venu me voir en me disant, écoutez Cyril, il y a une possibilité, la compagnie Fraissinet qui a aujourd'hui en fait, qui est le vendeur d'avions, vendeur réparateur, c'est le garagiste de l'avion privé, ouais. Donc les Learjet, Beechcraft, etc., qui avait des filiales à Paris, Lyon, Abidjan, Milan, etc., etc. Il y a un coup à faire parce que le capital n'est pas protégé du tout et en achetant en bourse, au fur et à mesure, on peut se retrouver majoritaire. Et c'est exactement ce que j'ai fait.
Alors, mais moi, quand tu me dis ça, moi, j'ai l'image de... Enfin, on a l'impression que, voilà, tu as un portefeuille, tu peux dépenser ce que tu veux, c'est colossal, en fait.
Non, pas du tout.
Non, tu pourrais décider d'acheter ce que tu veux. Enfin, ça me paraît dingue.
Non, c'est du spiel, un peu. Hein, ouais. Parce qu'il faut rembourser, après.
Ouais, ouais. Et tu vas, enfin bon, c'est comme toujours, hein, faut la mise de départ pour après se retrouver à être confronté à ce type de choses, quoi. Mais bon.
Oui, mais il fallait absolument. Quand j'ai été majoritaire de Fraissinet, d'abord pour l'anecdote, le jour où je me suis où on m'a dit ça y est, t'es majoritaire, j'ai appelé Monsieur Fraissinet. Qui était le président de la boîte encore à l'époque, qui était lui d'ailleurs passionné d'avion. C'est lui qui avait mis l'aviation dans la compagnie Fraissinet, qui au départ était une compagnie maritime, hein, comme Pierre Fabre. Et donc je l'appelle et puis je lui dis, monsieur, je voudrais que vous m'envoyiez un avion parce que le conseil est à Marseille et moi je suis à Paris, je ne peux pas bouger, machin. Mais il me dit, mais attendez, quel honneur. Je suis majoritaire.
Oh là là. Mais alors, par exemple, quand tu te retrouves majoritaire de cette entreprise où le président est le créateur...
Il fallait absolument... J'avais pas les moyens de l'acheter. Donc il fallait, et j'avais étudié le coût, il fallait qu'en 6 mois, j'arrive à sortir de Fraissinet tout ce qui était inutile.
Ah ouais.
Et tout ce qui était inutile, c'était tout le vieil immobilier de Marseille.
Ah ouais.
Qui était... Tout le monde cherchait de l'immobilier à acheter à Marseille. Et je me suis dit, si je vends, si j'arrive à vendre en 6 mois tout l'immobilier de Marseille de la compagnie, je paye le truc. Et c'est comme ça que ça s'est passé.
D'accord. Et par contre, ce que je vais te demander, c'est est-ce que toi, enfin, tu sais, on a l'image d'un quelqu'un qui prend, un actionnaire qui prend comme ça les parts sur une entreprise. Est-ce que tu arrives comme un conquérant, un sauvage, ou quelqu'un de sympa, où tu t'entends avec lui, ou je sais pas.
Non, je me suis. S'entendre avec lui, c'était pas possible.
Ah, donc il a pas été très content de ce qui lui est arrivé.
Non, il était très bien content d'ailleurs. Forcément, vous m'envoyez un avion. Non, il
t'étais un peu le Bernard Tapie aussi de l'époque.
J'étais le Bernard Tapie de l'époque, oui, tout à fait.
C'était vraiment ça, les années 80, justement. Tu parlais de Mitterrand, il y avait ce côté des entrepreneurs on va dire, sans foi ni loi. Enfin,
c'était pas du tout du sans foi ni loi, non, c'était du calcul bien organisé.
Ouais, du calcul.
Ça aurait très bien pu ne pas marcher. Et ça aurait été dramatique, mais c'était vraiment un gros risque et que j'étais prêt à prendre. Et donc, Voilà, ça a été une période assez intéressante, parce que du coup, je devenais PDG d'une boîte cotée en bourse.
Comme à ses voisins, dire que ça ira mieux, même quand tout va bien, c'est de voir le soleil au milieu des nuages, et devant un avion, rêver d'un voyage, réussir sa vie.
Très bien. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est ta période entrepreneur. On a parlé des droits, il y a Fasciné, il y a aussi... il y avait quoi aussi comme entreprise? Les entreprises, quelque part, on parlait du sucre, mais tout ça, tu devais encore le gérer aussi.
Oui. Tout le système fonctionnait bien. Voilà. Ouais. Il y avait des sociétés financières qui finançaient le cinéma, que j'ai développé aussi,
ouais.
Et etc.
Oui,
etc.
Ça,
etc.
Voilà. Financé.
Tout ça fonctionnait très bien.
Ça, tu vas aller jusqu'à un moment... Ta passion pour les bagnoles ou la course, ça va t'amener vers Ligier, finalement?
Et ça va m'amener vers Ligier, oui. C'est,
alors, Ligier, c'est une écurie de F1.
J'avais déjà fait un petit essai avec une petite boîte qui s'appelait AGS. C'était les automobiles gonfaronaises de sport, qui faisaient de la F1. Ouais. C'était un garagiste du Midi qui avait réussi à faire de la F1 comme ça. Et c'est un de mes amis qui connaissait le truc et qui m'avait dit « Tiens, on fait ça ensemble, etc. » Bon, lui, on fait ça ensemble, c'est moi qui ai payé, j'ai tout perdu, et lui, il n'avait pas mis un rond. Et donc, non, j'ai toujours été passionné de voitures, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, à la mort de mon père, j'étais dans une boîte, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un garage avec un ami.
On voit cette vie d'entrepreneur, je parlais un peu de Bernard Tapie, bon, je te taquine un peu, mais il y a... C'est comparable, c'est vraiment, ça.
Non, moi, je connaissais mal, mais je le connaissais quand même. On se connaissait quand même, on se voyait souvent. Bernard Tapie, et moi, j'ai toujours été admiratif de ce qu'il a fait. Et c'était un type courageux, intelligent, touche à tout. Et même sa mort a été très courageuse.
C'est vrai.
Il n'y a vraiment rien à lui reprocher.
Un petit peu la pancarte qu'il laisse à sa femme, un petit peu quand même. C'est pas très sympa.
Attends, personne n'en sait rien.
Ah, d'accord. Okay. je sais pas.
Personne n'en sait rien.
T'as raison, en plus on parle d'un truc, je sais pas.
Je suis sûr que sa femme n'est pas si malheureuse que ça.
Ah, bon bah, on lui souhaite.
non, mais c'est vrai, parce que... d'ailleurs, j'ai un... un de mes amis qui, quand j'ai pris le contrôle de toutes les trucs d'avion de Fraissinet, m'avait appelé le tapis volant.
Donc tu vois, c'était pas faux. Le tapis volant, c'est pas mal ça.
C'est pas mal. Et donc lui aussi, il a été foutu en l'air par la politique. Hein.
Alors voilà, justement, on y vient. À la politique, c'est ça qui va nous intéresser maintenant. C'est le fait que tu vas te retrouver impliqué dans la politique, actif. Mais ce qui est particulier, c'est que, de ce que tu m'as raconté, ce qui est intéressant, c'est que. C'est même un peu typique de la politique, c'est qu'au regard de ton influence, tes moyens, tout ça et tout, tu as été approché des dizaines de fois par gauche, droite, qui disaient bah, « Tiens, implique-toi dans ceci, dans cela, pendant au niveau national, j'entends.
Ouais. » Tout à fait. Oui, ouais. Ça, il n'y a aucun doute, mais...
Toi, tu n'y as pas souscrit à ça.
En particulier au moment de Ligier, quand j'ai repris Ligier... là, ils se sont tous précipités.
Ah ouais.
Et je me rappelle très bien de gens venant sur les Grands Prix, par exemple, Jacques Toubon arrivant avec le papier, mais ils signent au RPR, enfin, écoute, tu peux pas faire autrement. Et puis, je sais plus qui pour le PS. Et puis, on m'a même proposé à un moment de prendre la présidence du Parti radical.
Ah ouais.
Vraiment, c'est. Ça arrivait de tous les côtés. Et moi, je ne voulais pas faire de politique. Je n'ai jamais voulu faire de la politique, d'ailleurs. Par contre, effectivement, quand je dirigeais ce groupe coté en bourse, je pensais qu'il était bon de les connaître, les politiques.
Oui.
Donc, on avait toute une bande de copains avec Que ça soit Bolloré, Michel-Édouard Leclerc,
c'est une bande de copains.
Zannier, enfin des bandes de copains, quoi. Hein. On organisait.
On entend encore parler.
On organisait une fois ou deux, ou une fois tous les mois ou une fois tous les deux mois un déjeuner avec des hommes politiques importants.
Ah oui.
Alors,
proche de la.
On a eu Chirac.
Ah, oui. Comment ils sont portés? Ils jouaient sur les influences.
Ils sont tous différents.
Ouais,
Giscard d'Estaing, etc., etc. Et non, ils étaient tous très différents. Moi, j'étais assez ami avec François Léotard.
Ouais. Qui
le pauvre est mort il y a deux jours, trois jours.
Ah, il est mort il y a deux jours.
Ouais.
Ah tiens.
Et donc,
on en a peu parlé.
C'était assez bizarre parce que on était donc jeunes chefs d'entreprise, de grosses entreprises. On avait tous à peu près le même âge. Et on recevait des politiques importants et on leur disait « mais vous ne pouvez pas continuer comme ça ». Déjà, dans le même genre de système qu'aujourd'hui, on leur disait la même chose qu'on pourrait leur dire aujourd'hui.
Ah oui,
c'est-à-dire vous êtes complètement en dehors de la réalité, remettez les pieds sur terre, vous ne savez pas du tout ce que c'est. Et à un de ces déjeuners, qui était celui avec Chirac, qui vraiment prenait les gens de haut, lui dit « Écoutez, mes petits amis, quand vous serez élus, vous pourrez parler.
Oh. » Bon. Ah oui.
Voilà.
Ah
et oui. Puis, je ne sais pas si c'est six mois ou un an après, ou trois mois, je déjeune ici à Chaumont, à l'Étoile d'Or, avec mon ami Thierry Simon.
On va en parler, ça. On va en parler, mais Chirac n'a rien à voir là-dedans, là, ce que tu m'as raconté.
Eh si.
Parce que tu... Ah oui, bah oui, d'accord, ok. Alors, voilà, alors on va situer, donc, ok, on a compris que toi, politique, non, t'es dragué parce que, le monde, on va dire, du business et de la politique est lié, de toute façon, en général, de temps. Peut-être sûrement de plus en plus, je ne sais pas.
Oui, cas, ça non, mais d'ailleurs, ça a coûté très cher de ne pas vouloir rentrer dans le système.
Oui, hein, c'est sûr. Oui, parce que tu devenais quelqu'un d'indépendant pour eux. Donc, on revient à Chaumont, le lien avec Chaumont, toujours Leval, puisque tu en as hérité, le lien familial dont on a parlé. Et toi, tu as un ami important qui est Thierry Simon. Dans le cadre d'un repas.
La famille Simon était amie de la famille Rouvre. Et Thierry est devenu mon ami par la suite parce qu'on était presque de la même génération. On avait 5 ou 6 ans d'écart. C'est vrai. Les deux familles étaient unies parce que mon grand-père avait, au moment de la guerre de 40, accepté de prendre en son nom la totalité des biens des Simon, parce que le grand-père de Thierry avait été envoyé en déportation, il n'est jamais revenu d'ailleurs. Et la dernière lettre qu'a écrit son grand-père, et qu'il avait jetée par la fenêtre du wagon, avait été adressée à mon grand-père. Et donc, à la fin de la guerre, mon grand-père a redonné tous les biens à la famille Simon. Et donc, Thierry est devenu mon ami. Quand j'ai hérité, et en particulier des terres ici, et il m'a aidé à les gérer, à en acheter plus, etc., etc. Donc, il était, pas oublié que Thierry était agent immobilier et très impliqué dans tout l'immobilier, aussi bien agricole que des villes, en Haute-Marne. Donc, on était assez proches. Et donc, un jour, on va dîner à déjeuner à l'Étoile d'Or pour discuter de terrain ou je sais pas quoi. Toujours est-il qu'il me dit « Ah, bah tiens, vous connaissez le monsieur qui est là ?» Je lui dis « Non, je ne connais pas ». Et il me dit, c'est M. Berchet, le maire de Chaumont. Ah, je lui dis, bon, très bien. Allez, venez, on va lui dire bonjour. Je lui dis, Thierry, j'en ai rien à foutre, moi, du maire de Chaumont.
C'est bien, toi.
Et, ah non, mais j'ai dit ça, c'est sûr. Ouais. Hein? Et il me dit, si, on y va quand même. Et puis, on se lève, on avait fini. On va à la table et Thierry dit « Monsieur Berchet, je vous présente votre successeur. » Je comprends pas, je dis rien parce que je comprends pas ce que ça voulait dire. Et
pour mettre à l'aise.
Berchet sourit, ou rigole même, et me dit bonjour. Je dis bon, je me présente, Cyril Derouve, machin, et puis on va se rasseoir pour finir le café avec Thierry. Je lui dis mais qu'est-ce que vous avez raconté là? Vous m'avez jamais parlé de ça. Elle me dit, vous savez, ça serait bien quand même, parce qu'on se vous voyait. Hein.
Oui.
Hein.
Ouais.
Ça serait bien quand même. Et là, la graine était semée.
Ben oui.
Et effectivement.
Alors, voilà, c'est de la politique, mais c'est un peu différent de la politique nationale, même pas mal.
C'est pas de la politique du tout,
même. C'est local.
En permanence, quand j'ai décidé finalement d'y aller, parce que c'était un challenge, en fait. Thierry m'avait expliqué en même temps que Berchet, il était indéboulonnable, machin, et que ça faisait des années qu'il voulait rentrer dans la politique, lui, en fait.
Thierry.
Oui.
C'est un petit peu ce que je te disais, enfin, c'est un peu ton Talleyrand.
Voilà, c'est un peu le Talleyrand.
C'est un peu le Talleyrand du coin. Donc, on pense à lui, d'ailleurs, en paix à son âme, hein, Thierry est parti.
Oui, toujours est-il qu'il me persuade, et que je prends ça comme un challenge, tout simplement. Et, parce que je dis, oui, mais c'est vrai que la ville de Chaumont, je trouvais que c'était nul, machin.
Il a fait des choses.
Non, mais...
Oui, mais après, vu l'extérieur.
L'activité et la manière de faire les choses me semblaient vraiment à l'envers de tout. Et donc, comme dans tout ce que je faisais, je m'y suis mis à fond. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour. J'ai pris des spécialistes de la communication de Solange Stricker à l'époque, etc., etc. Et puis, contre toute attente, j'ai été élu.
Après, c'est vrai que je pense que ça a secoué le milieu politique local, parce que c'est vrai que, pour me souvenir, bon, j'étais petit, j'avais, je sais pas, 12 ans, mais ça a quand même secoué un peu le Landerneau. C'était un peu le golden boy qui arrive dans la ville, quoi.
Oui, et moi, je comprenais pas, d'ailleurs, parce que je disais, j'ai été élu, voilà, je veux pas voir le problème. Et donc, c'est en fait, c'est du hasard, mais du hasard bien orienté. C'est pas... c'est pas du hasard. Il y a forcément une raison qui est arrivée de quelque part. Parce que je ne crois pas au vrai hasard, moi. Je pense qu'il y a des coïncidences qui se font. On ne sait pas d'où elles viennent, mais toujours est-il que c'est là.
Ça se produit. Et là, quelque part, tu vas évidemment, tu vas te prendre au jeu, enfin, si on peut appeler ça un jeu, mais tu vas décider de faire... plutôt dans un registre, dans le registre de ce que tu es dans le monde de l'entreprise et tout, tu vas plutôt être en te disant, on va essayer de faire de cette ville, je sais pas comment dire ça, tu vas essayer de la un peu de la vitaminer, quoi, entre guillemets, c'est un peu ça l'idée.
Oui, mais mon leitmotiv à l'époque, c'était parce qu'il fallait contrer ce truc, cette image de golden boy, machin, parce que j'étais pas du tout golden boy quand j'étais maire, ça avait rien à voir. C'était de dire, moi, c'est pas du tout une politique, c'est une vocation. C'est pas un métier de faire de la politique, c'est une vocation. Parce que ça rapporte beaucoup moins, beaucoup plus d'ennuis que d'avantages. Donc, il faut y aller. Et c'est seulement en pensant ça qu'on arrive à faire vraiment les choses qu'on pense qu'ils sont bonnes pour l'avenir.
Un politique...
Mais qui sont pas acceptées par les autres politiques. Donc,
normalement, t'es censé œuvrer pour le bien commun.
Voilà, exactement. Et moi, il n'y avait que le bien commun qui comptait. Le reste, je m'en foutais. Moi, j'étais sûr de mon coup, peut-être un peu trop. Mais effectivement, quand j'ai décidé de faire le parking et les résidences étudiantes, là,
oui, ça, c'était...
dans un truc qui était complètement à l'abandon depuis 15 ans, Bon, tout le monde a dit c'est inadmissible, faut pas faire ça là, machin, etc. Quand alors j'ai commencé,
ouais, ouais. On peut se rappeler, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements à cette période-là. Il y a eu le parking, tu parles de Trefousse, il y a eu les.
Quand on a voulu. Les silos.
Bah, on va parler des silos, évidemment. Il y a eu aussi, je voyais ça, mais même, il y a beaucoup de choses.
Les rues, les
bâtiments en bas dans le Vieux-Chaumont, là, rond-point, il y a plein de trucs qui ont changé à ce moment-là. Les piétonnes, évidemment.
Les rues piétonnes, bien sûr. Et
la piscine aux cavaliers, etc. Il y a eu beaucoup.
Tout ça, la piscine aux cavaliers, ça c'est quand même une anecdote extraordinaire aussi. Donc, je dis, c'est vrai que les gosses du cavalier étaient beaucoup plus malheureux qu'aujourd'hui. Hein. Et je dis quand même, ça serait bien si on leur faisait une piscine pour qu'ils puissent aller se baigner, machin. Il n'y avait rien du tout à Chaumont pour l'été. Et donc, au conseil municipal, il y avait toute une partie du conseil qui était contre et qui me disait, écoute, et puis à la fin, il disait, on n'est peut-être pas complètement contre, mais on ne va pas faire ça aux cavaliers, il faut le faire autre part, ce n'est pas possible. et moi, je leur dis, non, mais écoutez, on ne va pas le faire autre part, hein, parce que autre part, ça veut dire plus près de chez vous. Et chez vous, vous avez déjà tous des piscines, alors qu'est-ce que vous nous emmerdez?
tu crois que les élus, que les élus à la mairie avaient des piscines? Ah oui, mais c'est vrai que non, mais ça.
Non,
ça
non, mais c'était. C'était,
pour le... c'était osé de faire une piscine d'été, par contre.
Voilà, piscine d'été.
Ouais.
C'était pour le mot aussi.
Bien sûr, pour le mot.
Mais ça compte aussi, parce que je ne me suis jamais laissé faire comme ça. Et aussi bizarre que ce puisse paraître, la représentante du personnel de la mairie à l'époque, qui était une femme très intelligente que j'aimais bien d'ailleurs, qui était complètement de gauche, mais vraiment gauche, on s'est toujours très bien entendu. J'ai discuté avec son frère souvent, et donc c'était vraiment très agréable, justement, de pouvoir être dans un système où on avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec vous, mais on pouvait discuter et sans avoir à se casser la figure.
Alors, justement, il y a un truc quand même...
Parce qu'elle s'est aperçue, si, elle s'est aperçue, okay. Je voudrais juste rajouter ça, elle s'est aperçue que j'avais du bon sens.
Hein. Oui, non, mais c'est ce qui prête dans une ville comme ça.
Et toute action de ma part était faite pour le bon sens. Quand je n'ai pas voulu détruire les silos, parce que le prix de démolition était complètement ridicule pour l'époque, et que j'ai voulu en faire finalement...
Ridicule parce que élevé.
Parce que élevé, oui, ouais, ridiculement élevé. Je me suis dit, on peut en faire quelque chose alors, si ça coûte si cher. Donc. Et c'est comme ça que l'idée est venue d'en faire ce système des silos aujourd'hui.
Alors les silos, on en parle notamment... On est obligé de parler de l'affiche, on est obligé de parler du graphisme.
L'affiche, c'est le hasard aussi. Alors, tu visites la bibliothèque.
Voilà, tu visites la bibliothèque qui était Bouchardon, bibliothèque Bouchardon, juste à côté de la préfecture.
Tout à fait. Et la conservatrice de la bibliothèque me dit « Est-ce que vous voulez voir des affiches ?» Bon, je dis « Oui, ça m'intéresse. » Et elle commence à me sortir les tiroirs, des affiches superbes de la collection du Taillé.
Bien sûr.
Je me suis dit, mais attendez, ça reste comme ça dans les tiroirs paf d'un seul coup, je cherchais quand même quelque chose à faire pour animer Chaumont.
Et oui.
Donc j'ai dit, musée de l'affiche. Il n'y en avait pas, ça n'existait pas en France.
Alors, il y en avait un qui avait fermé à Paris, oui, justement dirigé par Alain Veil, avec qui tu vas appeler pour le salon, pour le festival.
Pour le festival, voilà. Donc, musée, festival, etc. Et c'est comme ça que tout ça s'est enclenché.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où vous lancez ça, l'avantage que tu as ou que tu amènes, c'est le fait que tu aies le réseau parisien, autre et tout, qui va faire que ça va donner une visibilité assez forte, assez vite. Puis Alain, à mon avis, est la bonne personne.
Je crois que c'est surtout Alain. Hein. Ouais. C'est surtout Alain. Moi, tout seul, j'y serais pas arrivé, je pense. Non, je pense que c'est surtout Alain Veil qui a fait.
C'est sûr. Hein. De toute façon, il est.
Alors, c'est vrai qu'Alain Veil pouvait aussi dire que c'était moi le maire et c'était plus facile s'il allait voir le ministre de la Culture que je connaissais. Voilà, bon...
Non, mais voilà, ça permet de faire des effets leviers et tout ça. Ouais. Et donc, il y a le festival commencé. On a, d'ailleurs, il y a un joli petit livre qui avait été fait à l'époque, que je n'ai pas là, mais on voit des photos de l'époque de Chaumont, de la, plein de photos de Chaumont et de la vie qu'il y avait à ce moment-là au niveau du festival. Bon, Alain, il va y être pendant 9-10 ans, je crois. Ça ne passera pas trop avec la mairie d'après. Les silos, ils arrivent après, enfin je veux dire après, ils sont déjà engagés quand le festival arrive à Chaumont.
Ah oui, ou... oui.
C'est déjà engagé.
Oui, oui.
Et on va leur donner la couleur liée au festival ensuite quand même.
Les silos sont destinés à dépendre entre...
ah oui.
de l'affiche.
D'accord. Hein,
parce qu'il était même prévu, dans un deuxième temps, de faire le vrai musée. De l'autre côté, là où il y a le parking actuellement.
Ouais, en face, voilà, ouais, ça. Ouais. Ouais, c'était ça le projet de Nice.
Ce qui était transformé
par signe,
la construction du signe.
Oui, voilà. Oui, voilà, mais bon, ça c'est vrai que c'est encore une histoire très longue finalement, puisque ça a été un serpent de mer pendant longtemps, la question. Parce que ce qui est dingue, c'est qu'on va avoir les silos qui vont se créer, qui devaient être le musée d'affiches, mais ils ne vont pas vraiment l'être, puisqu'ils vont... exposer parfois des affiches, mais c'est pas un lieu permanent, puisqu'il y a un lieu permanent en prévision, mais bon, voilà, il y a eu les histoires après, le temps, la politique, les budgets, tout ce qu'on veut. Mais et quand les silos
sont... Et puis surtout le fait que j'étais plus là.
Bah oui.
C'est sûr.
Je pense que ceux qui ont succédé, ils ont adhéré quand même au sujet, mais est-ce que... voilà. Après, c'est vrai que dans les fondateurs, entre guillemets, de cette initiative, il y avait Alain Veil, il y avait toi, Thierry aussi d'une certaine manière, donc tout ça, toutes ces personnes ne sont plus là, donc ceux qui reprennent le bébé, bon bah ils vont apporter leur couleur aussi.
C'est sûr.
Mais c'est vrai que pour avoir souvent échangé avec Alain là-dessus, voilà, il y a eu vraiment une rupture au moment où il part. Les silos racontent cette histoire géniale, c'est que tu vois dans un journal que Libé, Ration, le journal, Libération, c'était pas dans Libé, mais tu vois que ils ont décidé d'investir. Alors, je connais d'ailleurs ces locaux-là de la République, un ancien garage automobile. Et
c'est pour ça que j'ai choisi
ces architectes.
C'est pour ça que j'ai choisi ces architectes.
Voilà. Ouais. C'était Canal, c'est ça. Comment il s'appelle? Je sais plus.
Ah oui, j'ai retrouvé le nom l'autre jour, et puis ça y est, maintenant qu'il en parle. Les frères.
Rubin.
Rubin, voilà.
Et ouais. Et donc tu vas voir ça, ce projet qui correspond en réalité au fait de refaire un bâtiment un peu plus indus ou plus.
Ben oui, il fallait vraiment quelqu'un qui sache faire du neuf avec du vieux. Et. Quand j'ai vu, je ne sais plus comment je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait cet ancien garage qui était devenu siège de Libé, je me suis dit, tiens, essayons. Alors, c'est vrai que la première fois, quand ils sont venus ici, ils venaient avec des pieds de plomb. D'ailleurs, ils ne s'en sont jamais cachés. Et parce que je n'étais pas leur idéal de gauche. Après, mais même la première discussion... ils ont vu qu'ils n'avaient pas affaire à quelqu'un qui pourrait détester. Et donc ils se sont dit, bon, ben, on va travailler ensemble. Et puis, on a parfaitement travaillé ensemble. Et puis le résultat, c'est quand même une réussite
parce qu'on est en 80.
C'est une gageure d'arriver à faire de ce vieux truc quelque chose.
C'est vrai que c'est pareil, ça a été un événement quand ça a ouvert. On allait visiter l'ascenseur complètement dingue, tout est agréable, surtout pour travailler, pour se poser, pour lire.
Et puis je tenais absolument à garder ces trémies, parce que c'est vraiment l'image, du silo.
C'est beau. C'est un lieu incroyable. Et puis le festival, alors après on pourrait parler de plein de choses et tout par rapport à son évolution, sa notoriété, tout ça, mais ça a quand même vraiment marqué beaucoup de personnes.
Alors monsieur le maire, on vient de le voir, le festival a remporté un grand succès par rapport au nombre de graphistes qui ont pu y participer. Est-ce qu'il en a été de même des Chaumontais et du public en général?
Je crois tout à fait, je crois qu'il faut surtout remercier tous les gens qui ont participé à ce festival et surtout les Chaumontais qui y ont participé largement. Je veux dire que l'animation dans la ville cet après-midi était assez extraordinaire, que les gens ont été regarder ces affiches, ont regardé ces affiches qui ont concouru, et pour nous c'est une grande satisfaction.
On vous a quand même reproché l'opposition hier au conseil municipal de l'argent mis dans ce festival. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine on vous suivra avec autant d'enthousiasme ?
Je suis persuadé même qu'il y aura plus d'enthousiasme l'année prochaine. Je ne crois pas qu'il y ait eu de reproches sur l'argent dépensé. J'ai l'impression que c'était surtout une demande d'explication complémentaire. Effectivement, vous savez que pour faire un événement comme celui-là, ça coûte forcément quelque chose. Mais je crois qu'il y a des contreparties qui sont largement supérieures à l'argent qui a été investi. Et la contrepartie, c'est effectivement l'animation qu'il y a eu dans cette ville. Ce sont les 1000 affiches que nous avons reçues. Ce sont toute la publicité qui a été faite autour de la ville de Chaumont. Vous l'avez vu sûrement, pour ceux qui ont été à Paris récemment, plus de 100 points d'affichage dans Paris sur lesquels il y avait cette fabuleuse affiche de Savignac, etc., etc. Donc, je crois que le coût lui-même, dans l'absolu, n'est pas vraiment élevé du tout, et je pense qu'on sera complètement suivi l'année prochaine.
Merci, monsieur le maire. On reviendra à Chaumont dans quelques instants. Tout de suite, la suite du journal à Reims.
Enfin, je veux dire, ça, dans les 10-15 premières années, ça a été vraiment une référence beaucoup de gens.
Ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on avait réussi à créer une fête. C'était vraiment une fête.
C'est vrai qu'il y a ça.
C'était vraiment une fête. On s'amusait, on riait sainement, mais c'était vraiment sympa quand je me rappelle les tambours là.
Tiens, tu peux parler un instant des concerts.
Oui, les concerts, oui, les concerts.
Parce que les concerts, c'était pas rien, ça. On a eu un.
Ah bah, c'était extraordinaire.
Négresse verte. Négresse verte. Mitsuko, tout ça, en centre-ville.
Stéphane Escher.
Beaucoup de monde, beaucoup de monde.
Beaucoup de monde. Et. Ben là, moi, alors là, je savais pas du tout qui prendre. Hein. J'avais aucune idée, parce que. J'avais plus 15 ans. Hein. Donc, moi, j'ai demandé à mes enfants. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire venir ? Et c'est eux qui m'ont dit ça.
Oui, notamment les négresses vertes. Oui, c'est vrai que c'était vraiment. Enfin, c'est plus ma génération. En
fait. Ah oui, c'est exactement.
Clairement.
Oui, donc, tu disais Coco, t'es de la génération de mes enfants.
Bah oui, tout à fait. Oui. Municipal, tu avais des remarques peut-être dans des choix musicaux.
Oh bah, là, ils avaient commencé à prendre l'habitude de publier parce que j'étais un peu un peu exigeant effectivement et comme j'étais sûr d'avoir raison. J'avais le tacle facile.
C'est pas très politique.
Politique. J'étais pas politique du tout.
Ouais, bah non,
du tout.
Les conseils municipaux se passaient bien à Chaumont.
Oui, finalement, ça se passait bien. Finalement, ça se passait bien. Thierry avait fait son boulot avant, fait tout le tour.
Talleyrand. C'est pas une insulte. Hein.
Et Jean-Claude Danel, qui était le seul type d'opposition qui avait un peu de poids. Je discutais avec lui et puis voilà, je bougeais pas d'un poil, mais je discutais avec lui quand même. Voilà. Donc ça faisait une animation au conseil municipal.
Donc voilà, donc les années se passent, la ville est un peu, comme je disais, un peu survitaminée, un peu avec différents projets. Et toi, tu continues en parallèle ta carrière professionnelle de toute façon.
Ah oui, bien 100%. Sûr. Alors c'est pas difficile. Tout le monde le savait d'ailleurs. Moi, j'arrivais à Chaumont le vendredi midi en hélico. Je précise parce
on va
que
tu... parler de l'hélico
parce que tout le monde le savait.
Bah oui, non, on rigolait. Moi, je me rappelle. On avait avec des copains, on faisait des BD. Enfin, ils faisaient notamment. J'étais pas encore avec l'équipe du Psylon, mais ils faisaient. Il y avait l'histoire du plan de circulation dans la ville qui était une galère. Ils avaient fait un super dessin où on te voyait en hélico au-dessus en disant oh, ça va, c'est super, en hélico c'est nickel, alors que tout le monde galérait en voiture.
Et quand on a changé de sens des rues, oui, ça ils n'ont pas aimé. Donc j'arrivais le vendredi midi et je repartais le lundi midi. Et donc je passais tout mon week-end en fait à faire tout le boulot de la mairie.
D'accord.
Et donc, j'avais pas beaucoup de temps le week-end, hein. Ça c'est sûr.
Et parce que on va dire justement le monde dans l'entreprise qui est à côté de cette activité-là. Bon, alors en l'occurrence, tu parles de l'hélico. Il y a un souvenir pour les Chemontais qui est un peu dingue aussi, des trucs. On se dit, mais il y avait une émission de télé, La Nuit des Héros, où ils venaient dans les villes, ils faisaient des compétitions entre les gens, et toi, t'étais arrivé en hélicoptère avec des feux d'artifice sur le viaduc. Enfin,
le feu d'artifice, le premier feu d'artifice, effectivement, on l'avait fait sur le viaduc, en bas du viaduc. Et sur le viaduc, et on avait réussi à avoir la SNCF qui passe avec un train spécial au bon moment pour déclencher un feu d'artifice depuis les wagons.
Voilà. Des cracheurs de feu.
C'était extraordinaire. Non, ça a été un feu d'artifice extraordinaire.
Et c'est vrai que là, on voit les gens qui se rappellent de ça comme une période d'émulsion, quoi, où il se passait pas mal de choses quand même. En effet, festivals, événements, des travaux, des constructions, des tout. Bon, c'est vrai que c'était une période particulière quand même.
C'est
en 80, entre 90 et 90.
Ce qui me fait vraiment plaisir aujourd'hui, c'est que il y a vraiment énormément de gens à Chaumont. D'abord, qui me reconnaissent toujours. Ça, c'est un peu emmerdant. Qui me reconnaissent dans le bon sens, c'est-à-dire que ils viennent gentiment me dire oh la vache c'était bien, c'était sympa, même j'avais 6 ans mais je m'en souviens, ça c'est
gratifiant,
c'est gratifiant, oui c'est vraiment très agréable.
Alors que pourtant depuis il y a malgré tout des choses, on voit il y a la piscine, il y a Palestra, il y a le relax, il y a plein de choses mais je pense que les choses se sont construites. Parce que ça ne s'est jamais arrêté de construire.
Oui, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui étaient déjà qui ont été transformées, bien sûr, par rapport aux projets initiaux, mais qui étaient dans les projets initiaux. Palestra, par exemple, ça a toujours été prévu.
Ah oui.
Au départ, je l'avais prévu. Enfin, nous l'avions prévu, nous l'avions prévu à l'ancien dépôt SNCF, parce que il n'était pas démoli à l'époque, on n'avait pas les moyens, hein, donc on fera ça là, mais quand on aura les sous. Et j'avais fait faire des études, et toutes les arches
en béton
étaient tout à fait réparables, et on pouvait profiter déjà de ça. Pour le faire.
Dit souvent que sur ce site-là, le problème, ça a été la pollution, la dépollution du sol.
C'est une invention d'aujourd'hui, ça.
On peut tout à fait se baigner d'ailleurs, dans de l'huile de moteur.
Tout à fait. On peut...
Alors, maintenant, on va faire le... Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est typiquement d'un roman. C'est que la carrière professionnelle, plutôt dans les affaires et tout ça, et la politique, même à une petite échelle locale, vont...
Ça énerve.
Ça énerve, oui, c'est sûr. Et puis tu vas te retrouver... Alors, je sais pas, c'est pas la politique qui va provoquer ça, enfin, je pense pas, mais tu vas te retrouver, notamment avec l'histoire de Ligier, confronté à quelque chose de majeur qui va...
C'est un mélange des deux.
C'est un mélange des deux, oui.
C'est de ma faute, hein, parce que...
Tu penses que le fait que tu sois maire, ça a joué sur tes ennuis futurs?
Sûrement. Ouais. Ouais. Je l'aurais pas été, j'aurais rien eu.
Ah ouais?
Ah, vraiment.
Ah ouais?
Non, c'est sûr. C'est sûr, parce que j'ai refusé, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute implication dans un système qui soit de droite ou de gauche ou n'importe où. J'ai toujours refusé. J'ai dit non, moi je suis complètement indépendant et je le resterai toujours. Et même quand j'ai été élu, la preuve d'ailleurs, la meilleure preuve que j'ai donnée, et c'est bien ça qui les a inquiétés, c'est peut-être ça l'erreur que j'ai faite, je me suis fait élire au conseil régional.
Ah oui. Hein,
et j'ai fait un groupe, j'ai réussi à faire un groupe au conseil régional avec les chasseurs.
Les chasseurs
Avec CPNT à l'époque.
T'es chasseur,
chasse, toi. Pêche, nature et tradition. Ouais. Et moi, j'avais eu des élus, mais tout seul, sans appartenance à aucun parti politique. Personne ne connaissait. On avait été obligé de donner un nom. J'avais appelé Force 4, parce qu'il y avait 4 départements. Puis ça m'amusait, parce qu'il y avait une bière sans alcool qui s'appelait Force 4 à l'époque. Donc c'était n'importe quoi. mais je me suis fait élire.
Ouais.
au conseil régional.
Donc quand notamment les politiques du Sérail te voient monter comme ça, maire, région et tout, ils se disent il va pas s'arrêter.
Il va pas s'arrêter là. Et surtout que je refusais encore, même élu, j'ai été à la commission permanente de la, du conseil régional, et même élu, je disais non, je voterai en ma conscience. J'ai rien, aucun ordre à recevoir de vous. Et là, c'est que ça a commencé à énerver un peu beaucoup. Voilà. Donc, un jour, je suis convoqué à la brigade financière. Et puis, on me pose des questions sur l'IG, machin. Écoutez-moi, l'IG, je viens de le racheter. Je viens de le racheter. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et puis, donc, je me retrouve dans le cabinet du juge d'instruction qui était, à l'époque, la fameuse Eva Joly. Et qui parle d'ailleurs très mal français. C'est quand même toujours agréable de se dire, tiens, c'est juste d'instruction, elle n'est même pas française.
Pour te contrôler par rapport à des irrégularités financières sur l'IGIE que tu viens de racheter.
Exactement. Et moi, je lui réponds, écoutez, madame, moi, l'IGIE, je viens de le racheter. Ça fonctionne bien. Ce que vous me demandez, c'est des trucs qui se seraient passés avant. Moi, je suis pas au courant. J'ai rien du tout. J'ai rien vu dans les comptes. J'ai rien du tout. Et puis elle me dit, bon, je lui dis, maintenant, on a fini de discuter. Elle me dit, non, monsieur de Rouvre, vous allez en prison.
Oh.
Je dis, attendez, qu'est-ce que je vais ajouter avec mon petit costard? Et effectivement, non. Donc ça... Le soir même, hein, je sors de son bureau, les flics, menottes et en prison à Fleury-Mérogis. J'ai dit, attends, qu'est-ce qui me tombe sur la gueule? Alors là, oh, voilà. Et puis, donc, épisode prison avec ses plus, ses moins. Took me aside, said I have to leave you for buying something from a friend. They say I've done wrong. In the name of a man, they say you'll have to leave ya. So now I'm bidding you.
Et qui va durer combien de temps l'épisode prison du coup?
2 mois. Je suis rentré juste avant mon anniversaire, c'est pas par hasard, c'est-à-dire vers le 15 décembre. Donc j'ai passé Noël 1er janvier et je suis sorti février.
Parce que.
Plus de 2 mois.
Donc là, c'est la prison préventive.
Préventive.
Ça veut dire qu'on met en prison. Le temps de...
Le temps de regarder, parce que on peut, ça peut être nuisible qu'on soit dehors.
Mmh, ouais, c'est ça, ouais, peut-être pour planquer les choses, mais c'est un, comment dire, c'est aussi un moyen de pression, quelque part.
Bien sûr que c'est un moyen de pression, D'ailleurs, tel moyen de pression que j'arrive le lendemain de mon arrivée, il y a un gars qui arrive dans ma cellule, et pour, qui est donc incarcéré et qu'on met dans ma cellule, parce qu'on était 2 par cellule. Et je discute un peu avec lui, et il me dit « Ah, mais je te connais, on a déjà dîné ensemble chez des copains un jour. »
Ah bon ?
Oh, je lui dis « Qu'est-ce que c'est que ça ? »
Qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce que c'est que ça ? Et je lui ai à peine parlé, mais de tout et de rien, et au bout d'une semaine, il était parti.
Ah oui.
Bizarre.
Ah oui.
Hein, bizarre.
Ah oui, ah oui, d'accord. Ouais, ouais, c'est comme ça que ça marche.
C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est très bizarre.
Oui, parce que ce qui va, que tu sois coupable ou non, là, tu es dans une situation hors du temps, bloqué.
Hors du temps, bloqué. Et bon, ben, c'est
important aussi, ce que tu dis, c'est que. Parce qu'on a toujours l'image, bon, notamment, là, on parle de ton parcours, la vie de château et tout, mais là, t'es en prison, t'es pas du tout dans un quartier VIP.
Pas du tout, non.
T'es dans une cellule...
Une cellule normale.
Normale.
Voilà. Et je m'aperçois vite que c'est un monde comme un autre, en fait, qui a les dominants et les dominés, et qu'il vaut mieux être du côté des dominants. Donc je regarde bien dans la cour, je vois un type qui me paraît être un peu caïd. petit, pas un vieux, hein, 30 ans, quelque chose comme ça, 35 ans, etc. Puis je vais le voir, je lui dis, voilà, écoute, j'ai l'impression que tu connais bien, parce que tout le monde vient te voir, etc. J'ai observé, et je pense que tu peux peut-être m'aider, parce que moi, j'y connais rien, je débarque là-dedans. Je te connais pas. Il me dit, moi, je te connais. Je lui dis, comment ça? Ben oui, il me dit, oui, t'es Cyril de Rouvres. Parce qu'il y a la télé, hein.
Ben oui, il y a la télé, en présent, hein, bien sûr.
Et donc, naturellement, ça a fait la une des journaux.
Et hein, oui, bon. Et oui.
Et donc, il me dit, bon, ben écoute, là, je comprends, effectivement, c'est compliqué. Donc, quand t'as un site, manque un truc, tu me demandes, machin, etc. Et puis voilà. D'ailleurs, ça m'a...
Sympa.
C'est plutôt sympa, ouais. Donc... Et puis, la même chose pour toute une série de choses. J'étais l'écrivain public de ceux qui savaient pas écrire, qui venaient me voir pour dire, ah bah tiens, il faut que j'écrive une lettre à ma nana, je sais pas comment la rédiger, machin. Donc finalement, on arrive à se rendre utile aussi. c'est aussi bizarre que ça.
Tu racontais un truc un peu dingue, c'est que.
Et puis il y a un truc dingue,
vous voyez. Les douches.
Le truc le plus dingue, c'est
enfin,
que.
Pas les douches, il s'est rien passé dans les douches, a priori. Mais pour pouvoir y aller, c'était une fois par semaine.
Et on avait droit à une douche par semaine. Moi, je trouvais ça quand même pas beaucoup. Et donc, le fameux petit caïd que je vois pendant la promenade, je lui ai dit, bon, écoute. Je prends une douche par semaine, ça fait vraiment pas beaucoup. Il me dit, inscris-toi au sport. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que quand tu fais du sport, t'as le droit de prendre une douche après ton sport. Alors je lui dis, bon, ben d'accord. Je m'inscris au sport. Et donc il y a un formulaire à remplir, comme dans toute une bonne administration française. Et puis deux jours après, je reçois un truc. Votre inscription a bien été prise en compte. Délai 6 mois. Je me dis, ça me fait rigoler maintenant, mais je me dis, attends, je vais quand même pas rester 6 mois là-dedans.
Oui, parce qu'en plus, implicitement, ça veut dire.
Donc je vais revoir le fameux, et je lui dis, attends, il me dit 6 mois. Il me dit, bon, écoute, achète des baskets. J'ai dit, pourquoi faire? Il me dit, t'occupe pas, achète des baskets.
En interne, dans la prison.
Oui, achète des baskets. Donc, on pouvait cantiner, ça s'appelle cantiner, c'est-à-dire qu'il y a, un petit magasin, entre guillemets, de la prison, où on peut acheter des suppléments de bouffe ou des trucs, et des baskets. Donc, je fais mon truc, je demande mes baskets, et puis je reçois mes baskets 2 jours après, et en même temps que les baskets, mon inscription au sport. Là, je piche plus rien. Et je revois mon copain, je lui dis, mais attends, je comprends pas. Là. J'ai reçu mes baskets et en même temps mon truc au sport. Il me dit, t'as pas compris? Je lui dis, non, j'ai pas compris, sans ça je te demanderai pas. Mais il me dit, qu'est-ce qui vaut les baskets, tu crois? Eh ben, c'est le maton du sport.
Et oui.
Et voilà. Et voilà. Donc le monde est toujours le même.
Ouais, où qu'il soit, le monde est toujours le même.
Ça, c'est l'entrée.
Et la sortie, elle
la sortie est... était, la sortie était est tout inénarrable.
Est vrai, tout est vrai dans la sortie.
Tout la est vrai dans la sortie.
Elle est incroyable. Là, honnêtement...
Pour faire ça... D'ailleurs, entre les deux, la seule personne étrangère, vraiment étrangère, qui a pu me visiter, c'était Frank Williams, le patron de Williams, la F1, qui était complètement paralysé, paraplégique. Il est venu jusqu'à Fleury, et il a pu aller dans la salle des mariages, on a pu se voir pour discuter, parce qu'il ne pouvait pas aller au parloir normal, il ne pouvait pas y aller dans sa truc. Donc c'était un moment extraordinaire, ça aussi. Donc pour la sortie, c'est aussi un moment extraordinaire. C'est que...
Il faut situer qu'en tout cas, ce sujet-là, ton sujet qui t'arrive un peu comme les ambiances de... Tu parles d'Eva Joly, tapis, tout ça, c'était vraiment à la une des journaux, les histoires d'entrepreneurs qui se font attraper, enfin, arrêter, ou etc.
Oui, mais c'était le tapis volant aussi. Hein.
Ouais, voilà, c'est vrai. Ouais, t'étais le tapis volant. Est-ce que t'étais le tapis voleur? Alors, je ne sais pas, ça.
Et non, ça, je ne crois pas. Ça, on ne m'a jamais reproché, ça.
Non. Ouais, c'était pas jamais.
Donc, la sortie était extraordinaire. Au bout de 2 mois, j'en avais vraiment marre. Et Ma femme qui avait le droit de venir me voir, ça c'est normal. Il y a Thierry Simon aussi qui m'a amené tout. Ah oui, j'ai jamais démissionné. Hein.
Oui.
De la mairie.
Poste, ouais.
Et Thierry Simon venait une fois par semaine me faire signer tous les documents et tous les arrêtés municipaux. C'est quand même, c'est extraordinaire aussi ça. C'est inimaginable. Mais on pourrait faire un film. Ça,
ah, c'est... Oui, c'est...
Et donc, au bout de 2 mois, vraiment, là, je commençais vraiment à en avoir marre. Je me dis, mais c'est pas possible, ils vont pas me laisser là-dedans 6 mois, quand même. Et ma femme qui vient me voir, je lui dis, écoute, tu vas voir tel avocat, qui était le grand avocat de la droite, tel avocat, le grand avocat de la gauche, très proche de Mitran, machin, etc. Tous les deux très grands. Tu leur dis exactement la même chose, mais tu changes pas un mot. Cyril, en a marre, il va tout balancer. Elle le fait. Enfin, j'en sais rien si elle le fait.
Sais rien si elle le
fait. À l'époque, j'en sais rien si elle le fait.
Ah, tu ne sais pas, toi, dans la prison, tu ne sais pas si elle va y aller.
Je ne sais pas si elle va y aller, je ne sais pas si elle y a été. Le lendemain, on a la télé, donc je regarde TF1 à 8h du soir, hein, et PPDA qui titre « Cyril de Rouvre est sorti de Fleury-Mérogis ». Je suis dans la prison et on dit à la télé que je suis sorti. C'est quand même... Je sais pas si je deviens fou. Dans toute la prison, parce que tout le monde me connaissait aussi dans la prison. Hein. Ça cogne sur les tuyaux, les machins. Alors, t'es là, t'es parti. Parce qu'il y a une ambiance aussi en prison.
Ouais, bien sûr.
Et, fait exceptionnel, ce qui n'arrive jamais, ce n'est jamais arrivé, j'ai été extrait, ça s'appelle extraire, hein, de la prison.
Extrait.
J'ai été extrait de la prison à 10h30 du soir.
Ah ouais.
En pleine nuit. J'ai rendu mon pactage à 10h30 du soir.
Incroyable.
Insensé, ça n'arrive jamais.
Parce que le tu penses que c'est un concours de circonstances ou c'est ce que tu as provoqué, tu vois.
J'ai rien dit d'autre que ce que j'ai dit.
Ouais.
Et bien sûr que je l'ai provoqué. Ça peut pas être un concours de circonstances,
ouais,
ça n'existe pas. Hein.
Ouais.
Mais tout ça, vraiment, c'était assez insensé, parce que personne n'y croyait. Personne n'y croyait.
Alors, à ta sortie ou à ton emprisonnement?
Ni à l'un ni à l'autre.
Ouais.
Ni à l'un ni à l'autre.
Alors, parce que, donc tu l'as dit, tu es encore maire de Chaumont, tu sors, tu reviens et
alors
tu vas revenir.
Je reviens.
Au conseil municipal. Et...
Alors, j'y pensais déjà, parce que c'est ma femme qui est venue me chercher. Ma femme est venue me chercher le soir, à 10h du soir. Donc, on l'avait prévenue elle aussi. Elle était prévenue avant moi, forcément. Et on revient ici, et pendant tout le trajet, je me suis dit, merde, alors là, maintenant, il faut que j'affronte le conseil municipal. Pas de la tarte, quand même. On a beau savoir qu'on n'a rien fait, savoir que c'est parfaitement injuste, c'est quand même une grosse charge de honte de sortir de prison, d'une certaine manière. Pas pour moi, parce que j'ai des copains qui peuvent avoir été en prison, je m'en fous complètement, mais j'ai dit... Théoriquement, c'est ça.
Mais
donc,
bien sûr, oui.
Les gens vont me le reprocher. Ça va pas être possible. Et comment est-ce que je peux tenir le coup avec tout ce que je dis tout le temps, hein, alors qu'on peut me dire du jour au lendemain, mais de toute façon, tu sors de prison, qu'est-ce que tu as à nous dire?
Oui, parce que ce que tu évoquais tout à l'heure dans le côté un peu vindicatif,
voilà,
un peu cash,
un peu cash, voilà, oui, très cash même. Je sais que les conséquences sont pas. Donc, je ne sais plus si c'est le lendemain ou le surlendemain, premier conseil municipal, j'ai dit, il faut y aller tout de suite, hein, parce que j'ai été cash aussi. J'ai dit, bon, je ne vais pas vous raconter d'histoire, hein, vous savez ce qui s'est passé, vous savez où j'étais hier, hein, moi, je peux vous dire que c'est parfaitement injuste, que c'est parfaitement inadmissible et que ça n'a strictement rien à voir, ni avec la mairie, ni avec rien du tout. Alors, c'est vous qui choisissez, hein, hein. C'est pas difficile. Si vous voulez pas de moi, je m'en vais. Hein? Mais si vous voulez de moi, on fait comme avant. Hein? Alors c'est vous qui le dites. Et ils sont tous mis à applaudir.
Bah, dis donc. Oui.
Ouais. Là, ça fait un grand.
Parce qu'in fine, pour revenir sur la raison pour laquelle tu étais là-bas, toi, tu dis c'est parfaitement injuste et tout. Tu penses que. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, non?
Non, oui, il n'y a pas de fumée sans feu, mais Le prétexte qui a été fait pour me mettre en détention provisoire, c'était sur mes affaires où, soi-disant, mon groupe était en faillite. Donc, il y a eu une nomination parallèle d'un administrateur provisoire tout le groupe, hein, qui était chargé de vendre la totalité.
Hein. Ouais, c'est un peu bizarre.
Soi-disant, pour récupérer l'argent qu'il n'y avait pas. Mmh. Hein. Et moi, après ça, j'ai mis plus de 10 ans à prouver ma bonne foi. Hein, parce que, effectivement, moi, je ne pouvais plus l'arrêter. Hein, ça, l'administration provisoire, c'était obligatoire. Et à la fin du compte, bien que tout ait été vendu à l'encan, hein, mais vraiment à 3 sous 5 francs, hein, comme les cinémas ici, hein, le gars qui les a rachetés, ils s'en sont mis plein les poches. Hein. Mmh. Toujours est-il que tout vendu à l'encan comme ça, le groupe, donc, complètement éparpillé, machin, il restait encore de l'argent. Attendez, alors c'est en faillite ou c'est pas en faillite? Il faudrait savoir ce que vous dites. 10 ans. On va dire, mais c'est pas la même chose, et machin, et etc. Parce que je devais soi-disant 60 millions aussi. Oh, 60 millions,
hein? Les sommes sont ahurissantes.
Donc, hop, effectivement, ben non, c'est vrai, il reste de l'argent à la fin, ben on est désolé, hein, c'est pas de notre faute.
Et ça fait de la casse sociale, tout ça, toute cette...
Pardon ?
Ça fait de la casse sociale. Il y a beaucoup de personnes qui ont été licenciées ou autres, ou les boîtes ont perduré.
Non, les boîtes sont plus ou moins restées. Tout le monde s'est précisé. Il y avait pas mal d'immobilier tout était organisé, hein, parce que il y a des gros systèmes immobiliers qui ont été vendus à certaines personnes qui n'ont pas déboursé un sou. Le crédit, c'était crédit total sur la totalité du bien.
Ah oui. Hein?
Ah forcément, oui. Le prix était tellement dérisoire par rapport au prix que ça valait vraiment.
Dans le roman, t'irais jusqu'à dire que t'étais un homme à abattre.
Ah oui, oui, oui. Alors ça, j'irais pas jusqu'à dire. Je dis.
Ah oui.
Je dis, clairement, depuis le début. Hein, depuis le début. Ouais. Il y a des trucs bizarres, toujours des trucs bizarres qui se passent. Des cambriolages au bureau, tout retourné sans qu'on prenne rien. Tu vois, des trucs comme ça.
Eh oui. Ah oui. Donc là, on va dire que tu termines ta mandature, tu vas te représenter. Bon, tu ne vas pas être réélu, les mouvements politiques locaux font que...
Alors, oui, mais c'est encore...
La droite est divisée, tout ça.
C'est surtout que il y a eu le montage par une chef de cabinet, une ancienne chef de cabinet. Comment elle s'appelait? Elle commence par un A. Madame, avec ton père aussi. Ah. Toujours est-il que je dis aux gens... De droite, parce que c'était la droite contre la gauche à l'époque, hein. Il n'y avait pas...
Oui, mais parce que...
Daniel socialiste, et nous, c'était la droite de l'autre côté. Voilà. Ouais, c'est pas... Pour simplifier. Et je dis, de toute façon, si je ne viens pas avec vous, vous perdrez. Hein? Alors, c'est vous qui choisissez. Hein? Et ils ont dit, il n'y a pas question que tu sois avec nous, et ils ont perdu.
Ah, t'étais pas dans la fusion des... C'était la fusion des listes,
J'ai refusé. À ce moment. J'ai dit, si vous acceptez pas que je fusionne, que je fusionne les listes, vous serez perdant. Et ils ont perdu comme ça. Ouais. Et moi, je voulais pas faire autrement. Et donc, voilà, les années Daniel ont commencé. Voilà.
Est-ce que toi, de ton côté, alors professionnellement et du coup politique locale, tu vas... traverser une période, comme on dit, traverser du désert ou pas.
Traverser du désert, je sais pas si c'est un désert.
Ouais.
Mais je traverse une période plus calme, encore que. Je me suis retourné un peu sur des activités en Suisse. J'ai fait de la promotion immobilière à Verbier. J'ai fait 2 immeubles, machin. J'étais par hasard à Haïti où j'ai construit une maison. Non, c'était actif quand même, mais pas impliqué du tout. Et puis, J'avais vraiment plus envie
d'être sur le devant de la scène.
Sur le devant.
Alors justement, si on devait un peu résumer, alors moi, ce que je retiens, c'est que tu as un profil plutôt indépendant, qu'en réalité, comme on le disait au début, tu as été dans un cadre familial, financier, qui aurait pu te faire avoir une vie où on n'entend même pas parler de toi, et puis tu vis la vie sans du tout de problème financier ou quoi que ce soit, mais finalement tu as choisi plus d'être sur le devant de la scène. Si on devait résumer, Cyril, un peu là, toute cette émission, on peut dire que ce que je note en tout cas, c'est que tu as un profil évidemment indépendant, qui a un côté un peu romanesque, mais qui est sûrement lié à l'histoire de ta famille, de ce dont tu hérites, et puis de ce que tu vas, comment tu vas transformer ce dont tu hérites, plutôt en allant de l'avant, notamment dans le monde de l'entreprise. Mais finalement, le fait de devenir maire de Chaumont, c'est aussi, parce que c'est, évidemment, c'est pas pour l'argent, c'est pour, comme tu le disais, un peu pour œuvrer pour la collectivité, quelque part, et pour avoir envie de transcender un peu ce qui se passe à Chaumont, enfin avec ta vision à toi.
Non, j'ai l'impression d'avoir la volonté de changer ce que je n'aime pas. C'est-à-dire que quelque chose que je n'aime pas, j'ai toujours envie de le changer. Il y a quelques fois, c'est impossible et ça m'exaspère. Donc, je risque de m'énerver certaines fois, ce qui est un gros défaut en fait. Donc non, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Les raisons profondes de tout ce que j'ai fait sont simplement que je pensais que c'était bien, ce qui est peut-être très égoïste en fait, d'une certaine manière. Alors que d'un autre côté, on se dit c'est une vocation. Et c'est vrai, arriver à faire vraiment une ligne droite entre les plus et les moins, parce que c'est ça, en fait, j'arrive à la conclusion aujourd'hui, mais je l'ai toujours pensé, que c'est absolument impossible. Je peux dire que je suis fier de rien et fier de tout en même temps. Là aussi, c'est peut-être aussi très...
Présomptueux.
Présomptueux vis-à-vis de moi-même. Voilà, c'est ça.
Non, ouais,
c'est... Bien sûr qu'il y a des choses que je regrette. Mais est-ce qu'il ne fallait pas en passer par là pour arriver autre part? Est-ce que si ça s'était passé autrement, il n'y aurait pas eu autre chose? On ne peut pas le savoir. On ne peut réagir que sur ce qui est vrai, s'est vraiment passé. Et c'est ça qui m'inquiète énormément pour l'avenir. C'est ce que tu m'as montré tout à l'heure, qui en est la preuve même, c'est que on peut faire la vérité du fake.
De l'IA actuelle, enfin l'intelligence artificielle, les capacités qu'il y a en matière de deepfake, de modification.
On peut faire dire à n'importe qui.
Ah oui, ça c'est possible.
On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui.
Ben, on rentre dans une époque qui va être particulière, distinguée de réel.
Et donc, il n'y aura plus de vérité.
Une dernière question qui était, est-ce que, au regard de ce que tu as raconté, est-ce que tu penses que c'était le fait de t'impliquer localement en politique, c'était dans l'esprit de la prolongation peut-être, on évoquait ton arrière-grand-père qui a été député du territoire et tout, est-ce qu'au fond, c'est inconsciemment ou consciemment l'envie de poursuivre ça? Parce que j'imagine qu'il a été député aussi, certainement, à vouloir faire évoluer son territoire.
Si effectivement c'est une conséquence de cela, elle a complètement été ignorée par moi. À la limite, je me suis aperçu que mon arrière-grand-père était député qu'à partir du moment où j'ai été élu maire.
Ah, oui.
Donc ça peut-être que c'était à l'intérieur de moi.
Oui.
Et forcément, ça l'était. Mais pas du tout consciemment. C'était donc complètement inconscient. Hein. Mmh.
Mmh. Eh ben merci, Cyril. Je te vous vois. merci pour cet échange. et puis je pense que je pense que les auditeurs apprécieront déjà d'en savoir plus sur ton parcours, et puis peut-être de comprendre un peu la mécanique qui a fait que ton destin était lié à ceux des Haut-Marnais qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà.
Oui,
aujourd'hui, quel que soit le jour où ils l'écoutent.
Je vous remercie aussi. Et puis, en faisant ça, je me rends compte encore plus que j'ai beaucoup d'histoires à raconter. et j'aimerais bien pouvoir les écrire, mais j'y arrive pas.
Ouais. Écoute, au moins, on en garde une partie en audio et c'est pas plus mal. merci. À bientôt. Au plaisir, bientôt, Cyril. Ça marche.
Bye bye.
Bye bye. If he can hear you sing, it's an open door.